dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Moi, ce qui m'a gêné dans le métier de comédienne, c'est d'apprendre les textes, un peu comme à l'école. Déjà, à l'école, j'étais pas bon pour les récitations, mais quand il a fallu apprendre Beckett, fin de partie, là, ça a été plus difficile. Quand je vois des grands clowns sur une piste de cirque ou de théâtre, là, on est dans un niveau voilà, qu'on n'explique pas, mais ils sont sincères, moi, sinon ça marche pas. Et je crois qu'il faut, s'amuser comme quand on était petit, qu'on allait au Gave de Pau faire une cabane, faire un bout d'épouvantail ou je sais pas quoi. Je suis un peu comme les salles polyvalentes, vous savez, dans les villages. C'est-à-dire, ça sert à tout et ça sert à rien. J'ai un copain, Savignoni, le père Savignoni, il me dit, toi, t'as été opéré de la honte, hein. Sois modeste, fais tes trucs. Mon père me le disait souvent, passe le gant devant ton visage, ça ira bien. D'ailleurs, moi j'ai refusé de faire une carrière internationale parce que je ne supporte pas l'avion. Peu de gens connaissaient ces peintures, on connaissait ces céramiques, ces poteries. Et là, on va découvrir un petit peu le côté peintre de Dominique Faure.
Passer une heure autour d'une table de jardin avec Bernard Coapé, c'est aussi inviter...
Lében Massol de Nocel.
Un conteur, Yves Durand.
Un animateur, Sociocu.
Le poil à gratter et le Macarel chaud.
Un Béarnais, la rue Montpezat et Philippe Honoré.
Un gardien de la paix et un garde champêtre.
Raoul Lambert et la dépêche du midi.
Un mineur dans la mine et Jean Carmet.
Fin de partie de Beckett et Philippe Flahaut.
En attendant Godot et Molière.
Un con dont on n'a jamais entendu parler.
Guillaume Lopez et la rétilade.
Un graphiste et 2 mètres sur 3.
Une cabane et un bout d'épouvantail du Gave de Pau.
Une femme qui gueule et la salle polyvalente du village.
Un scénario pour le cinéma sans tabou et sans complexe.
Un grand chanteur et poète, Bernard Molinier.
Le père Savignoni et un opéré de la honte.
Pierre-Maurice Nouvelle, un humoriste.
Dominique Foy et sa grande modestie.
L'armée française et le séminaire de Bétaram.
Le gant devant son visage.
Les compagnons de la chanson.
Une dernière tournée.
Yves Garrick, un type extraordinaire.
Gold et sexe dur.
Farbic et Bicfar.
Bertrand, l'employé municipal de Martrain et de Saint-Juéry.
Une Vespa de police.
Raymond Costecalde et René Durand, artiste ruthénois.
Michel Julliard, un peintre zoulou.
Le Wally, je l'adore.
Viviane et des ampoules à vis ou à douille.
Un psoriasis et des doigts sur des cordes de guitare.
Vivre au pays et San Francisco.
Et
une barre de 40.
Une vie de saltimbanque sur Dissonance avec Bernard Coapé.
Alors ce matin, j'ai pris ma voiture, direction Albi, puis j'ai tourné à droite, direction Martrain, Coupiac, Saint-Juéry. Et au lieu dit La Trivale, j'ai tourné donc vers le village de Saint-Juéry. J'ai continué, et avant Martrain à gauche, j'ai vu ferme de Farayrolles. Et c'est là que j'ai aperçu, près d'une croix, sous un noisetier et assis devant une grange, un homme tenant sous son bras gauche le monde diplomatique et coiffé d'une bisque de homard. Et je me suis dit, ben voilà Bernard Coapé. Salut Bernard.
Salut à toi. Et oui, effectivement, qu'on me reconnaisse, parce que je ne suis pas tellement connu, je mets comme ça, des fois c'est Libération sous le bras, ou un béret, ou une casquette de chez Massol, les bennes Massol, dans nos célèbres. parce que bon, personne ne me connaît, et donc voilà, il faut se repérer un petit peu dans l'espace.
Voilà, alors ici on est chez toi, dans ton repère, ton refuge, la ferme de Fareyrolles. Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu le cadre pour que les auditeurs puissent savoir ?
Oui, alors c'est une petite ferme, mais non, c'est vrai qu'on est très bien ici, ça fait 26 ans qu'on est là. On a trouvé cette ferme grâce à un compteur, Yves Durand, qui a dit « Tiens, j'ai vu une maison là, mais ma femme, ça ne lui plaît pas, c'est trop grand, trop loin de tout. » Et quand on a vu la bâtisse, on s'est dit « Ah là, vraiment, c'est un lieu, il nous faut ce lieu. La grange est magnifique, en voûte, etc. 2 hectares autour, pas de voisins. » Voilà, et donc on a eu le coup de cœur. De suite, tous les voisins ont été sympathiques, puisqu'on a eu une inondation quelques jours après l'achat. Tous les voisins sont arrivés avec des tracteurs, ils ont fait des raies dans les champs, ils ont des... Extraordinaire, extraordinaire. On a eu des voisins qui nous ont sauvés, qui nous ont aidés, tout... voilà, extraordinaire. Donc, voilà. Et ça me fait penser, quelques temps après, j'ai lu des bouquins sur comprendre le pays. Voilà, des sociologues qui ont travaillé là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent ici qui ne comprennent pas le pays. Et on va clôturer déjà pour que personne ne nous fasse chier, on va faire ça, on va interdire le passage là parce que c'est chez nous, et ils ne s'adaptent pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a que des saints ici, que des paysans magnifiques, que des comédiens extraordinaires, pas du tout. Je pense qu'il faut un peu s'adapter, voilà. Ça me fait penser à ça, cette maison. Mais voilà, ça a été le fruit aussi de cette intégration. Ça fait un peu banlieue. Mais enfin, cet accord un petit peu avec les gens qui sont autour de nous et qui ne sont pas si méchants que ça.
Donc être à tes côtés, Bernard, moi ça me télétransporte du côté de Rodez, la capitale ruthénoise, la capitale de l'Aveyron. Dans les années 70, quand tu étais animateur, où tu t'occupais du Calaire, tu nous en parleras peut-être. Puis pour moi, ton nom a été longtemps synonyme de metteur en scène extraordinaire, quand j'ai vu ta mise en scène de la pièce d'Yves Garrigue, La Ferme en trop. Puis je t'ai découvert poil à gratter quand tu réagissais sur le choix des interprètes qui venaient jouer au Rajal Delgorp sur le Larzac, pendant la lutte du Larzac dans les années 80. Et puis chanteur, compositeur, parolier avec le Macarel Show, mais aussi comédien, peintre, illustrateur, auteur, saltimbanque, pataphysicien, humoriste, poète, photographe, homme de théâtre de rue, scénographe, autant de casquettes et je ne sais pas par laquelle commencer. Alors j'ai envie de commencer par celle-ci que j'ai découvert dans ton dernier livre, La pensée bête, aux éditions du Chien qui pète. Il paraît que tu étais aussi béarnais.
Oui, oui, aux origines. Au tout début, je suis né béarnais, je suis né à Pau. J'ai failli naître sur la bicyclette de ma mère, de mon père, pardon, qui allait... parce qu'on habitait rue Montpezat à Pau, et l'hôpital était assez loin, donc mon père a pris sa bicyclette, il a mis la maman derrière, et j'ai failli accoucher sur le porte-bagages. Et puis non, ça s'est bien passé. Et alors, en pensant à cette rue, il y avait une petite épicerie en bas, bon, tout à fait ordinaire, et il y a le jeune qui avait 16 ans, il nous faisait toujours des petits dessins. Toujours des petits dessins. Quand on est parti ailleurs, ils nous faisaient toujours des petits dessins par courrier. J'ai appris plus tard que c'était Philippe Honoré qui a été tué à Paris, dans les locaux de... Et je recherchais, à la mort de ma mère, je recherchais ce mec. Je lui dis, mais ce mec, qu'est-ce qu'il est devenu ? J'ai fait Honoré. Et il se trouve que j'avais des bouquins illustrés d'Honoré sur... ici, et j'avais jamais fait le rapport avec ce jeune qui a bercé notre enfance et qui nous faisait toujours des petits dessins. L'anecdote, j'y pensais maintenant, ça m'a touché, quoi.
Rue Montpezat, et ton papa était gardien de la paix.
Voilà, il était gardien de la paix. Alors, c'est marrant parce que, imaginons la paix. Bon, ici on a la paix, mais la paix, c'est un petit truc là. Et puis il y a plein de types autour qui tournent pour la garder, la paix. Parce que c'est éphémère, la paix. Ça ne dure pas très, très, très longtemps. Hein. Comme disait Raoul Lambert, après-guerre, période qui précède une guerre. Ça, c'était du Raoul Lambert, avec qui j'ai travaillé un petit peu, qui était journaliste à la Dépêche du Midi. Un type extraordinaire, un type qui fréquentait Nougaro, notamment dans les bistrots toulousains. Mais il avait toujours un petit carnet, et il écrivait toujours des trucs comme ça. Et j'ai découvert ce type-là, et je lui ai appelé à la dépêche, je lui ai dit, mais ça me fait beaucoup rire ce que vous écrivez. Ah bon, monsieur, ça vous fait rire, ça? Et voilà, je voudrais bien monter une pièce de théâtre sur un texte. Ah, mais faites ce que vous voulez. Et puis il m'a écrit deux pages sur le titre de la pièce. Il dit, tiens, je vous propose deux pages. Le concierge n'est plus dans l'escalier. Le cri du zèbre. Et puis il écrit, passé minuit, c'est demain. Ah là, je dis, là il y a quelque chose. Donc j'ai pris son titre et on a fait une adaptation avec le théâtre L'Emporte-Pièce à l'époque, théâtre amateur de Nocelles. Et on a fait une adaptation de ces textes-là, qui étaient complètement absurdes. Et je me suis imprégné de cette écriture, qui était l'écriture des Anglais, nonsense, etc. Je me suis imprégné petit à petit. Je ne savais pas que j'allais écrire plus tard. À la demande de Mme Dastug, des éditions du Rouergue, elle m'a dit, mais Monsieur Coapé, il faudrait peut-être prolonger ce que vous avez fait avec Raoul Lambert. Il était décédé, Raoul. Et donc j'ai essayé de prolonger un petit peu, de prendre des idées à lui, et de rajouter, voilà. Et on a écrit « Faits divers, brèves et petites annonces » aux éditions du Rouergue. Et très fier, parce que c'est une belle édition qui est très bien diffusée au Canada, en Allemagne, un peu partout. Voilà. Bon, on n'a pas gagné beaucoup d'argent, ça, c'est sûr. Que... Mais voilà. Et donc, ça m'a permis, après, de continuer dans l'écriture des textes à l'absurde, comme « Pensée bête », qui a été écrit il y a 2 ans, à peu près. Voilà. Et... Ouais, c'est ça, c'est le plaisir de l'écriture. En fait, je l'ai eu par Raoul Lambert, après avec d'autres, mais lui, vraiment, c'était un délire complet.
Et donc, toi, avant d'écrire, tu étais dans ton Béarn, avec un papa gardien de la paix, on a sauté à Raoul Lambert.
Ah oui, c'est vrai.
Et après, tu as quitté ton Béarn natal pour venir travailler en Aveyron à l'âge de 18 ans. C'est quoi pour toi, travailler?
Oui, c'est vrai que pour... Un comédien, on dit jamais qu'on va travailler. Bon, le mineur, il dit je vais travailler, je vais dans la mine. Mais nous, on dit on va jouer. Ah, mais c'est pas travailler, jouer. Alors quand même, il joue, mais avant, il a eu une petite formation quand même. Hein. Une petite formation de comédien de l'arte, de mime, de voix, de trucs. Donc ça se fait pas quand même tout à fait comme ça. Ou alors, bon, il y a des génies. Hein. Il y a aussi des génies dans le théâtre ou je pense à Jean Carmé, par exemple. C'est un type qui n'a pas l'air de forcer, mais qui a sans doute une éducation artistique, mais on a l'impression qu'il ne force pas quand il joue. Moi, ce qui m'a gêné dans le métier de comédien, c'est d'apprendre les textes, un peu comme à l'école. Déjà, à l'école, je n'étais pas bon pour les récitations, mais quand il a fallu apprendre Beckett, fin de partie, Beckett fin de partie où je jouais un tyrannique, un vieux tyrannique sur un fauteuil roulant et aveugle, là ça a été plus difficile. Et là je remercie vraiment Philippe Flau, qui est le metteur en scène à Millau, qui fait un travail extraordinaire sur le théâtre, qui n'est pas mon style à moi, mais je trouve qu'il m'a fait jouer un rôle assez dur, et donc il y a quand même 1h15 de texte pratiquement. Là, je dois dire que j'ai un peu souffert. Mais Beckett, voilà. Beckett, alors, on est aussi dans l'absurde, quoi. On est dans l'absurde. C'est un écrivain connu, reconnu et tout, mais je dis, c'est peut-être un escroc. C'est peut-être un type qui a écrit avec sa bouteille de whisky pendant une ou deux nuits, il a écrit ce texte-là. Et voilà, en attendant Godot, c'est extraordinaire. On ne sait pas comment les gens peuvent écrire comme ça. Parce qu'on est en dehors des normes, on est en dehors de Molière, on est en dehors... Comment ce théâtre nous prend quoi, aux tripes? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en attendant Godot. Les mecs, ils attendent. Qu'est-ce qui se passe? Rien.
Tout à l'heure, en évoquant les mises en scène de Flau, tu disais, c'est pas mon style à moi. C'est quoi ton style à toi, en tant que comédien et metteur en scène? Et en tant qu'humain, en tant qu'homme?
Oui. Alors, je pensais que c'était plutôt le comique. L'humour et tout, mais en fait pas tout à fait. J'ai suivi des stages de clown, par exemple, avec des professeurs très 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 durs, quoi. C'est-à-dire, le clown, on peut pas tricher, quoi, c'est-à-dire on joue, on peut pas jouer un personnage, on est ce qu'on est. Et donc là, ça forme quand même, parce qu'on est obligé d'être sincère. Et cette formatrice, Claude Lestrade, me traitait de Walt Disney, de machin, parce que j'en faisais trop. Et elle allait chercher au fond de nous-mêmes ce qu'on avait de plus sensible. Et non pas le clown avec les grandes godasses et le nez rouge. Et là, on prend une baffe, parce que là, vraiment, il faut être sincère, et là, c'est plus de la comédie, quoi. On est dans une autre dimension. Quand je vois des grands clowns sur une piste de cirque ou de théâtre, là, on est dans un niveau voilà, qu'on n'explique pas. Mais ils sont sincères, moi. Sinon, ça ne marche pas.
S'il y a des plus jeunes d'aujourd'hui, des jeunes de 20 ans, tu devais leur parler de Bernard Coapé, tu leur dirais qui c'est ?
Ben, je dirais, mais qui c'est ce con ? Enfin, je n'ai jamais entendu parler de Bernard Coapé. Mais pas du tout. Non, mais c'est ce que je dirais. Non, je ne sais pas ce que je leur dirais. Moi, je travaille avec des jeunes musiciens, notamment Guillaume Lopez dans le Gers, qui a une compagnie de musique plutôt occitane et méditerranéenne. Donc, ils font travailler encore des vieux comme moi, et ça se passe très très bien. Je crois même que je travaille plus maintenant avec des jeunes qu'avec des vieux de mon âge. Je ne sais pas pourquoi ce phénomène. Par exemple, Lopez m'a embauché pour que je puisse peindre en direct sur un spectacle sur la retirade, la guerre d'Espagne en 1936. Il a recueilli les paroles de son grand-père et il en a fait un spectacle. Il dit, mais toi tu es graphiste, tu pourrais faire quelque chose. Et c'est là où je me suis lancé dans des peintures assez grandes, quoi, 2 mètres sur 1, multiplié par 3, donc ça fait 2 sur 3. 2 mètres sur 3, et en 1 heure, hein, en 1h10, il faut que ces peintures soient finies, et surtout qu'elles sont dans le mouvement de la musique et dans l'esprit aussi de ce drame, quand même, de ces exilés espagnols.
Tengo una copla morena y hecha de brisa y de sol, cruzando la mar serena. Con ella te digo adiós, adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una ronza de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Qué lejos te vas quedando, mi España de mi querer. Adiós, le pido llorando, que pronto te vuelvo a ver. Como una ronza encendida, perfuma mi corazón. Adiós, mi España querida, pa' ti canto mi canción. Si al darte de mi despedida, y es beso, y es oración, mi España, tierra querida, pa' siempre adiós.
Saltimbanque sur Dissonance avec Bernard Coapé.
Et le fait que tu travailles avec des plus jeunes, est-ce que ça ne veut pas dire que tu es resté enfant dans ta tête et que vraiment c'est là que tu es le mieux ?
Ah ben oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai, ouais. Non, c'est vrai, notamment en peinture, en graphisme. Je crois que ouais, là, il faut rester un peu dans l'enfance. Sinon, là, en ce moment, je tente des choses en peinture grand format, en volume, alors que ce n'est pas mon domaine. Et je crois qu'il faut, s'amuser comme quand on était petit, qu'on allait au Gave de Pau faire une cabane, faire un bout d'épouvantail ou je sais pas quoi. Je crois que là, ça, effectivement, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, je fais des trucs, je ne réfléchis pas, ça m'amuse et c'est tout, notamment en graphisme. En théâtre, c'est un peu particulier parce que si les mecs se barrent pendant le spectacle, là, ça devient inquiétant. Mais en peinture, ou en art plastique en général, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu.
Donc tu passes ta vie à jouer, quoi, encore ?
Oui. Ah oui, c'est très marrant. Je me dis, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, truc, mais je continue quand même à jouer avec les pinceaux, à jouer avec mes camarades. On se rencontre et puis on fait des dessins ensemble, on fait des peintures, on fait couler par terre. La femme gueule, putain, tu aurais pu te changer le pull et tout ça. Mais non, mais je recommencerai pas. Oui, chaque fois tu dis ça, oui. Enfin, bon. Voilà, mais c'est vrai que on est comme des gamins.
Et dans toutes les casquettes que j'ai évoquées au début, là, hein, au début de l'interview, si tu devais les hiérarchiser, je sais que tu aimes beaucoup la hiérarchie, Bernard, pour toi, ça serait laquelle, celle que tu mettrais au sommet ?
Oui, mais il n'y a pas tellement de hiérarchie. Moi, je crois que je suis un peu comme les salles polyvalentes, vous savez, dans les villages. C'est-à-dire, ça sert à tout et ça sert à rien. Il y a des trucs partout. Tu ne peux pas faire du théâtre parce que ça résonne. T'as la buvette, ça fait du bruit, enfin bref. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a, à chaque fois, je m'étonne parce que je dis, en ce moment, je suis en train d'écrire un scénario pour le cinéma. Mais comme ça, je n'ai jamais fait ça, par exemple. J'ai dit, pourquoi pas. Et en fait, j'ai compris, et c'est des gens qui m'ont fait comprendre que pas de tabou, pas de complexe, tu y vas. Par exemple, avant, j'écrivais, mais j'ai fait un stage avec un type qui s'appelait, hélas, Bernard Molinier, un grand poète, un grand chanteur et poète, enfin bref, un type qui m'a fait découvrir. Et après son stage, après ses stages, j'ai continué à écrire. Avant, j'avais honte et après, j'ai plus honte. C'est-à-dire, c'était pas bien ce que j'écrivais. J'avais plus aucun complexe. Et je crois que c'est ça un peu. Dans l'art plastique, c'est pareil. Je ne me prends pas pour Picasso, je ne sais pas faire les couleurs, je m'en fous. Moi. Je prends les couleurs que j'ai en stock si je ne les ai pas. Et voilà, c'est se décomplexer. Et ça, c'est le plus difficile, se décomplexer. Et comme comédien, bon, voilà, il ne faut pas avoir honte. J'ai un copain, Savignoni, le père Savignoni. Il me dit, toi, t'as été opéré de la honte, hein, quand même. Faire des choses comme ça, il faut le faire. Voilà. Ouais. Il ne faut pas avoir... Enfin, ouais, il faut se laisser aller. Et ça, c'est le plus difficile. Comment se laisser aller? Et voilà, donc après, on est amené à faire... Voilà, des bêtises comme ça.
Se laisser aller, mais tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais, mais si le public se barre, là tu te poses des questions. Donc, quand tu mets en scène une pièce de théâtre, ou quand tu joues sur scène et que toi tu prends du plaisir, parce que c'est ce que tu as voulu faire, mais tu dois tenir compte de la vie des autres. C'est difficile, ça.
Oui, alors le théâtre, c'est un peu plus difficile, parce que, oui, comme je te disais, il faut qu'ils restent, les gens. Si possible, qu'ils applaudissent à la fin, même plusieurs fois, ça ferait plaisir. Et donc, oui, il y a quand même un petit peu de règles. Ou alors, on fait aussi du théâtre expérimental, ce que je comprends tout à fait. Il y a des gens qui font ça très, très bien. Là, c'est vrai que si on veut faire de la comédie que ça ne rit pas, il y a peut-être un problème. Ça peut arriver aussi. On pense ça, et puis sur scène, c'est autre chose. Ou on pense peinture, et puis quand la personne regarde la peinture, elle voit autrement. Mais là, c'est vrai, le théâtre, c'est quand même, voilà. C'est pourvu qu'il ne s'ennuie pas, quoi, tout de même.
Tu pourrais te définir comme un saltimbanque, un clown ?
Ouais, saltimbanque, moi, ça me va bien, ouais. C'est le type qui va d'une place à l'autre, s'agiter avec son masque ou son chapeau rigolo. Saltimbanque, c'est pas mal, ouais. Humoriste, alors ça, c'était un ami, Pierre-Maurice Nouvelle, qui se disait... humoriste, ça se disait plus quoi à l'époque, humoriste, et c'est un grand clown, ce Nouvel, ce Pierre-Maurice Nouvel, c'est un grand clown, et voilà, et lui aussi, enfin, je parle de lui parce que c'est toujours des rencontres comme ça, avec des gens comme ça qui sont extraordinaires, qui en général ne l'ouvrent pas. J'ai remarqué que les plus grands comédiens, metteurs en scène, enfin artistes, qui ne parlaient pas d'eux, qui était dans un coin comme ça, un peu la tête basse, et qui sur scène dégageait une énergie. C'est souvent les plus modestes qui sont, je pense, les meilleurs. Et là, je pense, pour en revenir à Montlore et à Dominique Foy, que toi tu as connu, c'était du grande modestie, il ne parlait jamais de lui, tout ça. Mais quand même, il faisait des choses extraordinaires, des peintures d'une force même ses poteries, ses céramiques étaient d'une grande force. Et donc, et cet homme discret au possible. Voilà. Et moi, j'en ai rencontré quand même quelques-uns. Le type qui arrive et qui dit « Bonjour, monsieur. Alors, comme ça, je suis metteur en scène, je fais du cinéma. Ça, vous avez vu mon dernier film ? Non, vous ne l'avez pas vu ? Oui, c'est dommage. Grande qualité. Voilà, j'en ai rencontré. Et notamment, je ne vais pas citer, mais il y avait un réalisateur, je devais jouer un rôle de policier dans une série à la télé, La Clé des Champs, ça s'appelait. Et donc, je me présente au metteur en scène qui était en train de bouffer, comme ça. « Ah, bonjour, monsieur. Alors, vous faites quoi ?» Je dis, « Je fais du théâtre occitan. »« Du théâtre occitan. Ah oui, c'était intéressant. Bon, allez, voyez mon assistant, quand même. Hein. » C'est ça. Et ce metteur en scène se foutait la gueule du type du pays qui prêtait sa voiture, son chien, tout ça. Il était un peu édenté. Il se foutait de sa gueule. Ouvertement. Alors, monsieur Maurice, sourire éclatant toujours. Oh là, ça m'a énervé, je les ai plantés la veille du tournage parce que je trouve que c'était vraiment horrible. Ils prenaient les gens d'ici pour des cons. Le film a été d'une catastrophe. C'est-à-dire que l'Instit, il avait, c'était dans les années 90, l'Instit, il avait encore la blouse grise, le béret, et dans les marchés du pays, ah, on est attaqué par l'armée française qui nous a repérés, oui. Oh là 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 là.
Mais tout ce que tu viens de dire, Bernard, sur ces gens-là qui sont discrets, on pourrait te le retourner aussi. Parce que tu t'es jamais mis en avant.
Oui, d'accord, mais fait modeste, oui. Oui, on essaye quand même, mais on est un peu cabot quand même. Parce que quand on fait de la scène... Bon, on est un petit quand même, on aime qu'on nous voit. Non, mais c'est vrai que bon, j'ai pas envie de me mettre en avant tout le temps. C'est vrai, oui, mais c'est aussi peut-être mon éducation aussi, catho, machin truc, qui dit tourne-toi vers l'autre. Bon, tu vois, vis en chrétien. Non, mais c'est vrai, ce que j'ai remarqué, bon, moi je pratique pas, quoi, parce qu'on s'emmerde à l'église maintenant. Mais à l'époque, j'ai failli le faire curé. J'étais au séminaire de Bétaram, donc j'ai appris. Et j'ai appris, après Jésus, Dieu, machin, truc, Saint-Esprit, tout ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, les pères nous ont appris la tolérance et à l'écoute de l'autre. Après, est-ce qu'on le garde ? Bon, on le garde, on ne le garde pas. Mais enfin, voilà, donc je me suis dit, sois modeste, fais tes trucs. Mon père me le disait souvent, passe le gant devant ton visage, ça ira bien. Donc on reste quand même un peu modeste et réservé.
Alors aujourd'hui je suis avec un homme qui a écrit dans son livre Pensée bête et j'adore parler de rien car c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances. Alors du coup je me suis dit je vais faire appel à quelques amis qui vont m'aider à percer le mystère Bernard Coapé, si mystère il y a. Alors est-ce que tu veux bien te prêter au jeu, Bernard ?
Tout à fait.
Alors on y va avec le premier.
Bonjour à Joseph et bonjour à toi Bernard. Alors voilà, je voudrais apporter mon modeste témoignage à cette émission. La première fois que je t'ai vu en pied Bernard, c'était dans un spectacle dont tu faisais la régie et tu intervenais quelques secondes en tant que figurant dans ce spectacle au cours duquel je m'étais copieusement ennuyé, je dois le dire. Et j'étais reparti en me disant, mais le seul qui m'a intéressé, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est ce figurant qui est intervenu très peu, et c'est de toi que je voulais parler. Voilà, tout ça pour dire que, bon, d'abord, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir amené au théâtre et d'avoir mis en scène ma toute première pièce, qui était une Fermentro. Tu avais fait une mise en scène absolument géniale, et on a vécu... ensemble une très belle aventure qui se poursuit d'ailleurs puisque une Fermentro continue à être jouée un peu partout. Et moi je suis toujours très surpris par ton côté multicarte. Tu es à la fois comédien, metteur en scène, tu dessines, tu chantes, vraiment tu es multicarte. Et vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour cet aspect-là de ta personnalité. Je ne parle pas de ta gentillesse et de ta générosité. Alors je voudrais aussi te poser une question. Tu as été pendant longtemps, pendant un certain temps en tout cas, compagnon de la chanson. Et je voudrais que tu nous parles de cette période où tu chantais donc avec les compagnons de la chanson. Je te revois très très bien. Tu étais sur la scène au centre du groupe et on entendait assez distinctement ta voix qui était reconnaissable parmi les autres. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette période compagnon de la chanson ? À bientôt.
Compagnon de la chanson. Ah oui, village au fond de la vallée, rien d'oublié, un compagnon de chanson. En fait, on a fait des tournées avec le compagnon de chanson, c'est-à-dire qu'il y avait écrit dernière tournée, toujours dernière tournée avec le compagnon de chanson, et donc ça a duré quand même 15 ans, dernière tournée. Alors mes camarades des compagnons de chanson mouraient petit à petit. Puis moi j'étais là au centre, j'étais avec Edith Piaf, on en parlait souvent. Et pendant un concert, un qui tombait, un autre qui tombait. Le lendemain, deux autres qui tombaient. Et je me suis retrouvé tout seul avec Edith Piaf. Et là a commencé ma carrière de chanteur lyrique. Voilà, les compagnons de la chanson.
Chantons, chantons tous l'hymne au béret, image de notre pays, gros, mais grands et petits, portons tous avec fierté notre béret. Chantons, chantons tous l'hymne au béret, image de notre pays, gros, mais grands et petits, portons tous avec fierté notre béret.
Bien on vient au nôtre béret. Nous le portons, nous le chantons, sacré béret.
Loup béret. Loubérette.
Une vie de saltimbanque sur dissonance avec Bernard Coapé.
Mais alors, pour revenir à Yves Garry, ça c'est un type extraordinaire aussi, c'est quand même... Et je le connaissais en tant que journaliste à Rodez, il avait écrit des nouvelles du pays, des nouvelles sur le pays, par sa nostre, etc. Je me dis, putain, il y a quelque chose derrière ce type. Et un jour, je le contacte, je lui dis, vous ne pouvez pas écrire pour le théâtre, par hasard? Oh non, je dis, non, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire. Non, franchement. Mais quand même, sur le milieu rural que vous connaissez... Bon, je vais essayer. Un mois après, il m'appelle, est-ce que tu peux passer en... J'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire une ferme en trop. J'ai trouvé ça très très bien. Il y avait des scènes à couper un peu trop longues. Mais enfin, on monte avec mes camarades l'emporte-pièce, une ferme en trop. On était quand même 12 ou 13 sur scène, avec des métiers différents. Instit, postier, moi animateur. Et on a joué cette pièce pendant quelques années. Et un public, vraiment, on était étonnés de ce succès, les gens nous appelaient et moi je débranchais le téléphone chez moi, non mais c'est affolant, je débranchais le téléphone, les conseillers généraux m'appelaient quand même, venez jouer dans notre village, un gars du comité haut, on a plongé avec les Gold, ça serait bien de venir jouer la pièce, et donc il renflouait les caisses avec notre prestation, alors que Sexe Dur ou Gold était passé, et là, ça, c'était une catastrophe, on a perdu l'argent. Enfin, voilà, c'était un peu comparable, avec un peu de recul, à Bicquefar, Bicquefar, c'est-à-dire, on parle très, très peu, souvent, dans l'art en général, de nos campagnes, très, très peu, quoi, c'est très rare, hein. Et donc, ça a été un gros succès. Et quelqu'un, on va jouer à Toulouse, et il y a un type qui me dit, je suis chargé de mission auprès de la culture occitane à la région. Il s'appelle Alem Suro Garcia. Et ce que vous faites, c'est occitan. Je dis, non, il y a quelques mots comme ça. Non, c'est du théâtre occitan pour moi. Si vous voulez être professionnel, moi, je vous aide. Et j'ai réfléchi quelques temps. Effectivement, j'ai démissionné de mon travail. J'avais un très bon travail au canton de Nocelles, à la mairie de Nocelles, comme animateur socio-cul. Et bon, c'était très bien. Mais j'ai quand même démissionné pour me lancer dans le professionnalisme, grâce un petit peu au succès d'une ferme entre eux. Je dis, ah, il y a quelque chose à faire, peut-être en parlant de notre milieu rural, de nos campagnes. Voilà comment a débuté un peu le professionnalisme, même si ça a été dur au départ, mais on est devenu professionnel grâce à cette piste-là.
Mazette ! Quelle porcherie ! Il y a au moins là-dedans 150 cochons !
150 cochons au moins là-dedans !
Alors, on m'a dit que par le passé, tu avais été garde champêtre. Raconte-moi ça.
Oui, là, je reconnais Bertrand, l'employé municipal de Martrain. Martrain Saint-Juir, il double, hein, puisqu'il est à moitié. Ah oui, garde. Oui, j'étais garde champêtre à Saint-Flour, dans le Cantal, pendant le festival de Haute-Terre. Et mon idée, c'était d'être en Vespa, parce que j'avais trouvé dans le garage municipal, un Vespa de police de l'époque. Donc, les employés très sympas me l'ont nettoyé. Tout ça. J'ai mis un képi, un déguisement de gendarme, et j'ai fait les rues de Saint-Flour pendant le festival. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que les gens me prenaient pour un flic, alors que je n'avais pas la tronche, ni rien du tout, ni le physique, ni rien. Et je m'amusais de ça. Je les allumais, je leur dis, vous n'allez pas rester stationné comme ça. Non, mais monsieur, non, chef, non, ben on s'en va de suite. J'ai pris un plaisir à faire le garde champêtre. Donc, j'ai allumé tout le monde. Et c'était un gag pour le Festival des Hautes Terres, qui est un très beau festival à Saint-Flour, qui invite chaque année des artistes qui viennent, voilà, de Corse, de Haute-Savoie, de partout. Voilà, donc j'ai fait le garde champêtre, effectivement.
Troisième question, il y a un lien avec celle de l'ami Bertrand.
Oui, bonjour Bernard, c'est Michel Julliard. J'étais en train de feuilleter une de tes œuvres, le tome 10 d'ailleurs, le tome 10, donc qui est un livre assez important pour toi, où tu racontais la vie et la légende de Raymond Castocalde. Alors, à la page 230, tu parles d'un bandit anarchiste, Miguel Julliardot, qui, à Camarès, semait la terreur auprès des étrangers en détournant leurs courriers, mandats, allocations, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire le lien avec Raymond Castocalde ? Voilà, merci. À bientôt.
Ah oui, là je reconnais Michel Julliard. Et alors, Raymond Castocalde. En fait, Raymond Castocalde, j'ai commencé à écrire un scénario d'une BD que je n'ai pas fini parce que c'est assez difficile. Et Raymond Castocalde, c'est en fait René Durand, qui est un artiste ruthénois, qui est toujours un peu bizarre, un peu truc. Et donc j'avais commencé René Castocalde, Prospectus le jour, pas propre la nuit, ça s'appelait. Et je vais le finir. Et donc Michel Julliard, oui, Julliardo, ce type aussi. Alors ça fait que 20 ou 30 ans qu'on se connaît. La première fois que j'ai vu ses peintures, c'était à Baraqueville. Julliard, et puis j'ai noté sur mon petit calepin, Peintre Zoulou, parce que je trouvais que c'était un peu les peintures Zoulou. Et voilà. Et depuis, on s'est rencontrés. Et l'autre jour, j'étais en train de faire le point sur l'art postal et les lettres peintes qu'il m'a envoyées. J'en ai compté 62 lettres magnifiques, toujours des peintures. Et donc, il m'a un peu fait découvrir cet art postal. Qui, là, quand on parlait de fric, ben là, il n'est pas question de fric, il est question de faire une petite lettre pour faire plaisir à la personne qui va la recevoir. Donc il m'a initié à tout ça, et depuis, voilà, je n'arrête pas. Sauf qu'il y a très peu de gens qui utilisent la poste maintenant, avec les emails, avec d'autres trucs, avec les textos. Et donc on est de moins en moins nombreux. Et moi, je communique avec, allez, on va dire, trois personnes. Essentiellement, dont Julliard régulièrement, Michel Julliard, et puis Jean-Dao Meillau, qui est un écrivain, un éditeur du Limousin, et chanteur. Voilà, autrement, les gens n'utilisent très 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 peu le courrier, et c'était un vrai plaisir, moi, de recevoir des enveloppes, j'en reçois quelques-unes par an, mais Michel, c'est quand même celui qui produit le plus. Voilà. Et donc, on risque de faire, d'ailleurs, mais on pourra peut-être en parler plus tard, une sorte de rencontre à Montlore en septembre sur l'art postal et voilà, comment se faire plaisir en faisant plaisir aux autres.
Question suivante, un peu mystérieuse, que je te laisse découvrir.
Oui, bonjour, c'est Liliane Derriot à l'appareil là. J'appelle en fait pour poser une question à Bernard Coapé. Je voulais savoir s'il pouvait me renseigner et m'en dire un peu plus sur les réseaux. Voilà, parce que on est en train de voir ce qu'on peut faire avec tout ça et j'aimerais avoir quelques renseignements et puis si possible qu'il les donne aux auditeurs. Et tant que j'y étais, j'aurais voulu avoir aussi s'il en avait des nouvelles de Viviane. Voilà, merci.
Ah, de vous, Ali. Ah, il est fort. Ouais, ouais. Les réseaux, ouais, ouais. On travaille en réseau. Parce qu'il nous faut répéter le Macarel Show ici. Mais là où on est en ce moment, là, sur la terrasse, on répétait le Macarel Show. Et puis il y avait des musiciens qui parlaient toujours de réseau. Ouais, mais tu comprends. Là, il faut qu'on travaille en réseau parce qu'on ne va pas s'en sortir autrement. Voilà. Alors, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à ce musicien comédien. Il parlait de réseau. Tu vois, il faut travailler en réseau maintenant. Je ne peux plus travailler tout seul. Et le deuxième truc, le Wally, je l'adore. Et le Wally, j'écris une chanson pour lui, Viviane, parce que à Nocelle, il y avait un magasin qui vendait des ampoules. Tout ça, et la fille, elle est un peu comme ça. Alors, Bernard, viens. Tu veux voir le mari? Non, je voudrais des ampoules. Ah, tu veux des ampoules, mais quoi? Des ampoules à vis ou à douille? Et donc, j'ai imaginé que c'était elle qui... Voilà, je parle d'elle. J'aime Viviane quand elle se lave les dents. Ses fesses vibrent au rythme de la brosse à poils synthétique. Elle ondule, elle brûle, c'est magnifique. Pendant ce temps-là, au moins elle se tait.
Elle ondule, elle brûle, c'est magnifique. Elle ondule, elle brûle, c'est magnifique. Pendant ce temps-là, au moins elle se tait. Viviane travaille au Grand Intermarché. Rayon hygiène et propreté. Elle bouffe des chewing-gums toute la journée. Toute la journée, elle bouffe des chewing-gums. Elle ondule, elle brûle, c'est magnifique. Elle ondule, elle brûle, c'est magnifique. Pendant ce temps-là, au moins elle se tait.
Saltimbanque sur Dissonance avec Bernard Coapé.
Au moins elle se tait.
Et donc c'est Wally qui a mis en musique cette chanson, voilà Viviane. Et bon, on se marre bien avec ça. Et voilà, Wally qui m'avait demandé une mise en scène à l'époque, Wally et Freddy. Et c'est un type. Il n'arrête pas, quoi. Il n'arrête pas et même il tente des choses, c'est-à-dire que c'est un très bon musicien, guitariste, humoriste, très très bon, mais la dernière fois, Derli, son projet Derli, c'est de la chanson, un super musicien, de la belle chanson, et voilà un type que moi j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il ne reste pas sur ses acquis. Il fait rire, effectivement, énormément, et là il tente d'autres pistes, ça c'est Wally, c'est extraordinaire. Et je lui ai écrit aussi un petit texte court. C'est l'eczéma, ça s'appelle. L'eczéma, ça se soigne, mais le psoriasis, c'est difficile à prononcer. Les chansons courtes de Wally. Lui aussi m'a donné envie, quoi, aussi, d'écrire dans ce délire, parce qu'il est comme ça, absurde, Wally aussi. Mais c'est un travailleur, c'est comme Guillaume Lopez, le musicien. Ce sont des travailleurs quand même. On dirait comme ça que ça passe comme ça. Mais il y a beaucoup de doigts sur les cordes de guitare pour Wally. Et il y a beaucoup de travail de musicien derrière.
Alors, je ne sais pas pour Guillaume Lopez, mais le côté travailleur de Wally, c'est aussi peut-être lié à son origine sociale, qui est une origine ouvrière. Je ne sais pas pour Guillaume, mais est-ce que tu as remarqué dans ta profession, que les mecs qui venaient d'en bas, ils se bagarraient plus que ceux qui venaient d'en haut, j'en sais rien.
Oui, c'est un peu vrai, ça. Je pense qu'ils se bagarrent un peu plus, et puis ils ont le respect aussi des autres, beaucoup plus. je sais que, bon, je vais parler de ma personne, puisque je m'aime bien, et que voilà. Et je sais que moi, par exemple, j'ai fait tous les métiers pratiquement du théâtre, de régisseur, lumière, son, plateau. Et j'ai beaucoup de respect quand je vais sur scène, qu'il y a des techniciens et tout. Je ne les prends pas pour des cons, hein, parce que je sais qu'après mon passage, ils vont démonter le matos, ils vont rentrer chez eux à 4h du matin. Avant, ils sont arrivés 8h avant nous pour installer. Donc c'est un peu... voilà. Et puis quand on a travaillé, voilà, on a beaucoup de respect pour les travailleurs du spectacle.
On continue avec les questions.
Je crois aussi, Bernard, qu'on a un point commun, tous les deux, c'est notre volonté de vivre et travailler au pays, selon un slogan qui est assez propre à notre génération, celle de l'après 68. Cette démarche, cette volonté, quelque part, on l'a payé, puisque peut-être qu'on n'a pas toujours eu les moyens qu'on aurait pu avoir pour nous exprimer, mais je crois aussi qu'on ne le regrette pas, et que ce qu'on a vécu ici a été quand même très riche et très, très intéressant. Au bout du compte, je pense que tu seras d'accord, on ne le regrette absolument pas.
Ah oui, vivre au pays, oui. Ah, c'est marrant parce que, en ce moment, je ne vais pas parler de ma vie privée, mais je fréquente pas mal les blouses blanches, les infirmières et tout. Bon. Et donc, on me demande mon âge, tout ça, le poids, là, et qu'est-ce que je fais comme métier ou qu'est-ce que je faisais comme métier. Je dis, j'étais comédien. Ah, mais alors, mais comédien, mais vous habitez où? Mais je dis, dans le sud d'Aveyron, à Martrin. Non, mais vous êtes comédien, vous avez joué à Paris, quand même. Mais je dis, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'est pas... Je joue partout en France, ou dans le sud, en Occitanie, tout. Ah, oui. Mais à Paris, alors vous êtes passé à la télé? Je dis, oui, France 3, Kerserouergue. Oui, souvent. Alors, c'est une notion comme ça de réussite. Il faut réussir à Paris, quand même. Alors que, ici, bon, on part d'ici, mais on ne joue pas qu'à Martrin, parce que sinon, ça serait un peu réducteur. On part d'ici pour aller jouer dans d'autres lieux. Avec le Macarena Show, on est allé jouer en Belgique, on est allé jouer en Vendée. On a joué à Bercy, non pas la grande salle de Bercy, mais le musée des Arts Forains. Voilà, et donc on circule. Mais les gens pensent que la réussite vient de Paris. Il n'y a que de Bombec que de Paris. Et donc, ici, on a vécu ici. J'ai vécu, nous avons vécu avec ma famille correctement, pas richissement, mais correctement de notre métier. Et donc, on ne se plaint pas du tout d'être resté ici pour repartir d'ici. Aucun regret. Vraiment, vraiment, aucun regret. D'ailleurs, moi, j'ai refusé de faire une carrière internationale parce que je ne supporte pas l'avion. Alors, ce qui est vrai, je devais exposer...
Je ne sais pas si c'est une excuse valable.
Non, j'ai très peur. J'ai très peur en avion. C'est pour ça que je suis resté dans le coin. Mais autrement, c'est vrai que je devais aller à San Francisco parce qu'on a fait une expo commune avec Michel Julliard, avec d'autres. On devait aller là-bas pour l'inauguration. J'ai dit, mais non, mais moi, je prends le bateau. Moi, je ne prends pas l'avion pour aller à San Francisco. Et oui, alors là, je dis au chien, qui est la responsable, là, me dit, oui, bon... Disons, on se voit dans 50 jours, quoi, à 10 jours après le vernissage. Voilà. Non, mais aucun regret, vraiment aucun regret d'être... Mais au contraire, mais c'est presque un atout, parce que ici, par exemple, on a une grange où on peut répéter, on a l'extérieur qui est agréable, on peut faire dormir les comédiens, les musiciens. Je peux demander à mon voisin paysan, tu ne me souviendrais pas cette barre de 40, là, que c'est soit solide pour le décor, voilà. Et on arrive à créer, on arrive aussi, il y a des municipalités qui nous prêtent des locaux pour répéter. Je pense à Millau, à une époque où on nous a prêté la Maison du Peuple pour répéter. Bon, enfin, il y a beaucoup de possibilités, alors que va à Paris trouver une salle de répétition et trouver tout, c'est pas aussi évident que ça.
Bon pays, c'est la belle vie, il y a du soleil sur les canards. Et même quand il y a de la pluie, on dit ça c'est bon pour le navet noir. J'ai des arbres, par milliers des fleurs et la mer n'est jamais loin. J'y amène cousines et sœurs, l'océan et notre jardin.
Mon quartier c'est mieux qu'un pays, c'est un monde à lui tout seul. À 100 mètres j'ai l'Algérie, des nomades, tziganes ou peuls. Pas de tradition millénaire, en crasse rigide et frileuse. La culture révolutionnaire du métissage en musique heureuse. Je chambre pour la danse,
je chambre pour le geste.
Je chambre pour que ça balance,
et je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
Et mon voisin roule ses R et tu trouves ça très rigolo. Mais le tien sonne la misère qui déroule dans le métro. Mon Dieu, abandonné si Paris était capitale. Elle serait seule des paumées, des crèmes à faire qui ont que dalle.
Mais y va, tu vas entraver, je vais t'apprendre notre patois. C'est la langue de la cité, c'est la chambre des gens d'en bas. Prends ta cova et fais-toi saisir, je te laisse pour t'enlever. Tu voulais visiter Aganir, c'est Osraouen comme au quartier. Je chambre pour la danse,
je chambre pour le geste.
Je chambre pour que ça balance,
et je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste. On chante pour la danse.
Une vie de saltimbanque sur Dissonance avec Bernard Coapé.
Pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
Tu es un homme de projet, Bernard. Quels sont tes projets actuellement? Tu as évoqué tout à l'heure une exposition sur les travaux de Dominique Foy à Mont-Laure, si tu peux nous en parler, mais peut-être pas que ça aussi.
Oui, alors avec Dominique, qu'on a connu, qui est parti il y a 10 ans, avec sa compagne Christine, j'ai dit ça serait bien qu'on lui rende un dernier hommage, mais dans des conditions un peu professionnelles. Dans une belle galerie, avec les moyens. Et donc, on en a parlé à Véran Culture, et Sonia, la responsable des arts plastiques, est venue sur place à Mont-Laure et a vu ses peintures. Elle a dit, voilà, il faut qu'on fasse absolument quelque chose. Et donc, il y aura une exposition à la Galerie Sainte-Catherine, qui est une belle galerie à Rodez. Mais aussi, j'ai demandé aux amis de Dominique, des peintres, des sculpteurs, de marquer le coup, de créer une œuvre pour cette occasion. Donc on est une douzaine de créateurs qui l'ont connu, qui l'ont apprécié. Voilà, ça part des Américaines de San Francisco, Judy et Mike, qui ont longtemps habité ici dans un moulin, qui l'ont connu. Il y a Sylvie Gravelard, la céramiste. Voilà, de Fondamente, il ne faut pas que j'en oublie quand même, Stéphane Gott de Millau, Richard Vincent le peintre, Mélie Coapé qui fait partie de la famille, il y en a d'autres. Il y a Noria Prats qui est de Millau, qui fait des bombiles, sa sœur Finuccia qui est en Catalogne, qui fait des gravures, j'en oublie encore, Jean-Michel Pré qui est un artiste millavois, qui habitait ici avant, qui était potier ici. Voilà, donc je dois oublier encore, enfin il y en a 12. Et Gérard Marty aussi, qui va faire des peintures sur vitre à la galerie. Et donc voilà, là ça nous prend quand même un petit peu de temps, et on est très motivé par ce projet. Voilà, parce que on verra mieux les peintures de Dominique. Peu de gens connaissaient ses peintures, on connaissait ses céramiques, ses poteries. Et là on va découvrir un petit peu le côté peintre de Dominique Foy.
Dominique Foy, lui, vit et travaille dans l'Aveyron. Curieusement, les oiseaux et les chevaux ont été le point de départ de son parcours de peintre. Lorsqu'il a découvert le travail de la terre, naturellement, il a sculpté des chevaux et des oiseaux. Mais au-delà de ces figures totémiques, c'est l'énergie vitale de la matière qu'il nous transmet.
Je crois que les animaux, bon, c'est un peu le réceptacle de toutes les émotions possibles, à la fois formellement, parce que ça permet de travailler avec l'énergie de l'animal dans les mouvements, et puis ça lui permet aussi de donner corps à tous les sentiments, enfin d'être vraiment des supports à des sentiments qu'on peut leur prêter.
C'est quoi les dates de l'expo à Mont-Laure?
Alors à Mont-Laure, c'est fin septembre, début octobre. Je n'ai pas en tête là, mais je pourrais le dire tout à l'heure. Donc à la chapelle, au foyer Magali.
Il n'y a pas un projet aussi à la Galerie Sainte-Catherine autour des œuvres de Dominique Foy à Rodez?
Oui. Alors à la Galerie Sainte-Catherine, c'est là où on va créer ces œuvres-là. Enfin, à l'occasion, on va essayer de les remettre à Mont-Laure, mais techniquement, c'est un peu plus difficile. Voilà, et donc là, c'est J'ai pas les dates encore, enfin en tête. Et donc c'est Galerie Sainte-Catherine, donc très beau lieu d'exposition. Il y aura à la fois les peintures, peut-être quelques céramiques, sculptures plutôt. Et puis les douze amis qui vont faire une création spéciale.
Tu as un côté superbement altruiste. Tu mets en lumière Dominique Foy. Tu as mis en lumière Yves Garrick, Wally, puis plein d'autres que je ne connais pas. Voilà, mais tu as ce côté-là qui t'est propre.
Oui, peut-être que j'y trouve aussi un intérêt. C'est-à-dire que je suis tellement passionné par ces gens-là que quelque part aussi je me projette avec eux. C'est pas tout à fait Saint-Bernard, quoi. Il y a une part, je crois, une part où aussi je me fais plaisir en m'occupant d'eux. Ouais, ce que je peux dire, c'est que les gens ne vont pas assez vers les autres. Je dis souvent, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré plein de gens, mais ils disent non, t'as pas eu de chance, t'es allé vers les gens, c'est pas pareil. Et peut-être, mais aller vers les gens, leur demander des choses. On n'ose pas demander à un auteur, par exemple, un texte, ou un peintre, tu me ferais passer ta peinture. Moi, c'est vrai que j'ai passé un peu le cap, là, je m'intéresse aux gens. Même les gens que je connais pas, que j'apprécie comme ça par ce qu'ils font, par les peintures, les chansons, je leur dis. Je dis, mais c'est très rare, quoi. On ne dit jamais, j'aime ta musique ou j'aime ton film. Là, j'ai découvert récemment Jacques Mitch, qui est un réalisateur toulousain, qui fait surtout des courts-métrages. Et c'est un type extraordinaire, d'une invention, de tout. Et je vais l'appeler, ce gars. Je vais lui dire, moi, j'aimerais bien écrire pour toi. Mais le mec, il va peut-être me dire, mais monsieur, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait du cinéma? Non, pas du tout. Voilà, donc c'est assez aller vers les autres et voilà, et proposer des choses.
Merci pour cette heure de partage, Bernard. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi. Merci à Radio Sainte-Afrique, que j'écoute régulièrement quand je fais de la peinture ou de la maçonnerie.
Vous retrouverez sur la page internet de Dissonance des liens qui vous permettront de compléter cette émission, ainsi que la liste de toutes les chansons et musiques entendues. L'exposition « De la toile à la terre » autour des peintures de Dominique Foy aura lieu à Rodez, à la Galerie Sainte-Catherine, du 30 juin au 19 septembre 2020 et à Montlaure, au foyer Magali, du 28 septembre au 4 octobre 2020. Cette émission est rediffusée sur Radio Sainte-Afrique mercredi 24 juin à 8h et samedi 27 juin à 16h. Et bien évidemment, elle peut être téléchargée sur le site dissonance.ovh.
Salut
et fraternité.
C'est donc cela le bonheur. Des buffets à volonté, d'entrée, de dessert, toujours bien achalandé. Et pour 6 euros de plus seulement, il y a le fameux café gourmand. Ouais, ouais, le bonheur est là, ouais, ouais. C'est donc cela le bonheur, le goût d'autrefois retrouvé, l'authentique chips à l'ancienne. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? L'autre jour au supermarché, sur un paquet chips à l'ancienne, j'ai vu marqué en toutes lettres nouvelle recette. Ouais, ouais, le bonheur est là, ouais, ouais. C'est donc cela le bonheur, d'énormes multiplex ciné, où ça rumine du pop-corn, comme du bétail à cornes. Et afin de mieux apprécier le creux de films sans intérêt, on a les lunettes 3D. Ouais, ouais, le bonheur est là, ouais, ouais. c'est donc cela le bonheur. Passer les week-ends en famille, dans des bricots, marché des Jiffy Center, à deux pas du campanile. Ouvert dimanche et jour férié, on a rêvé, Emmanuel Macron l'a fait. Ouais, ouais, le bonheur est là, ouais, ouais. C'est donc cela le bonheur, ces zones commerciales franchisées, où bien sûr tu peux tout trouver, hormis un peu d'humanité. Mais c'est un détail, car c'est vrai, c'est vrai, c'est pratique pour se garer. Ouais, ouais, le bonheur est là, ouais, ouais. C'est donc cela le bonheur, l'iPhone de Samsung Galaxy, qui nous grignote des neurones. Mais on s'en fout, y a une appli qui nous calcule en temps réel ce qui nous reste comme cervelle. Ouais, ouais, le bonheur est là, ouais, ouais. Bam 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 b